Et c'est reparti pour les Voix de l'Alma, édition du mois de décembre 2008, avec autour de la table Jacques Griffaud de la librairie Le Scribe. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Daniel Deloche de chez Deloche. Bonjour Daniel.
Bonjour, bonjour.
Philippe Bernadou du même coin, de la même librairie, ça va bien ?
Bonjour, ça va, merci.
Et Maurice Beau du coin gauche de la Place Nationale, la librairie Beau Livre.
Toujours sur place.
Hein, toujours coin gauche, ça dépend toujours où on se place. Hein,
on tourne en rond sur cette place.
Alors, l'auteur du jour va nous être présenté dans un instant par Philippe Bernadou. Il s'agit d'Alberto Manguel, un auteur qui a déjà été invité sur le festival Lettres d'automne, le festival qui se déroule actuellement avec Lydie Salvert. On aura bien sûr l'occasion d'en reparler.
Et surtout, on le revoit dimanche.
Jacques Griffaud nous présentera La Peur, Daniel Deloche, Église, Échappelle du Tarn-et-Garonne, Mots, Animaux, ce sera encore à nouveau Jacques Griffaud, et puis Philippe Bernadou nous accordera une lecture des bibliothèques pleines de fantômes. Évidemment, nous terminerons cette émission avec l'actualité des libraires montalbanais, une actualité qui est très riche. Alberto Manguel, Philippe Bernadou, vous l'avez choisi parce qu'il revient, c'est ça ?
Oui, bien sûr. Comme le disait Maurice, ça a été un invité remarqué il y a 2 ans des Lettres d'automne. Et nous allons beaucoup parler aujourd'hui de cette seconde semaine de Lettres d'automne. Et il sera dimanche à 17h. Il est invité pour ce que les organisateurs appellent un post-scriptum, c'est-à-dire pour savoir ce qu'il est devenu depuis 2 ans, pour le retrouver avec plaisir. Et c'est l'occasion pour nous, qui l'avions aussi apprécié comme homme, de parler de lui et de son mystère. Son mystère, c'est qu'on a l'impression qu'il y a 2 hommes qui portent le même nom, et qui n'ont pas grand-chose à voir l'un avec l'autre. Il y a Alberto Manguel, qui a eu un nombre incalculable de vies, peut-être 7 comme les chats, peut-être plus. Il est né en Argentine, son enfance s'est déroulée en Israël. Il est revenu à Buenos Aires, où il a quand même été le lecteur de Borges, devenu aveugle, ce qui n'est pas rien. Comme jeune étudiant, il trouve un petit boulot de lecteur, et c'est Borges qu'il a en face de lui. Ensuite, ses séjours en Europe, en Polynésie. Il va s'établir au Canada un petit moment. Il a d'ailleurs acquis la nationalité canadienne. Et il vit maintenant en France depuis quelques années, du côté de Poitiers, où il a un presbytère qui est une immense bibliothèque. Et en face de ça, il y a donc le lecteur qui semble être un peu désincarné, un être de papier. Manguel a lu, on a l'impression, tout ce qui a été publié, du moins dans les 6 langues qu'il parle couramment, et peut-être dans quelques autres. Il faut dire qu'il a eu une gouvernante qui était tchèque, qui lui a appris l'allemand, l'anglais. Il parle donc l'italien, il parle l'espagnol bien sûr, il parle le français, je dois en oublier, peut-être le russe, je ne sais plus. Donc, il a lu tous ses livres, et le pire, si je puis dire, c'est qu'il s'en souvient de ces livres-là. ce qui fait que tous ces livres sont un feu d'artifice de référence qui s'éclaire réciproquement, des rapprochements inattendus, comme dans les 2 livres, et c'est aussi une des raisons d'en parler qu'il vient de faire apparaître. Cette rentrée, il y a La fiancée de Frankenstein. Voilà, c'est du côté du cinéma qu'il va, donc le film de James Whale. Et à partir de ce film, il va tirer un fil qui va de Mary Shelley à Marcel Duchamp. Ça montre qu'il dépasse aussi le cadre de la littérature, et qu'il est aussi à l'aise en culture cinématographique, musicale, etc. Et deuxième livre, c'est L'Iliade et l'Odyssée, qu'il n'a pas réécrit, où il nous parle depuis Homère, depuis Platon, jusqu'à James Joyce, de la lecture qu'a eu le mythe homérique, et de ses avatars à travers la littérature. Donc, pour retrouver Alberto Manguel, ça se passe dimanche 7 décembre à 17h au Théâtre Olympe de Gouges. Je vous invite tous à y aller, je vous le recommande chaudement.
Merci Philippe Bernadou. On en reparle tout à l'heure dans les actualités avec vous, Daniel Deloche. La peur, Jacques Griffaut.
Eh bien, La peur, c'est un livre de Gabriel Chevallier. Alors, Gabriel Chevallier, dès qu'on dit son nom, tout le monde pense à Clochemerle, bien sûr. Et ce qui fait sans doute que la peur est passée un peu inaperçue, car c'est un... On a sans doute pensé que un écrivain qui était un amuseur et autres ne pouvait pas écrire un livre très sérieux et magnifique sur la guerre de 14-18. Alors si j'ai choisi ce livre, c'est parce que 18-2008 aussi, voilà, et que c'est un livre que je viens de lire et que j'ai trouvé absolument formidable, remarquable. Moi j'avais lu à peu près tout le monde sur la guerre de 14, Les Croix de Bois bien sûr de Dorgelès, Le Feu d'Henri Barbusse, mais je pense que La Peur est un de ces livres qui se met à ce niveau-là et peut-être même à un niveau supérieur. Il est réédité par Le Dilettante, merci aux Dilettantes, cette maison d'édition qui est talentueuse et qui découvre des talents, découvreurs de talents présent et passé. Alors, ce qui fait tout l'intérêt de La Peur, pour moi, c'est pas simplement la description absolument, quelquefois indicible d'ailleurs, des horreurs de la guerre, c'est l'évolution du narrateur qui est là et on le suit vraiment corps et âme. Le narrateur, au départ, il avait toujours espéré échapper au service militaire. Et puis, maintenant, il se dit qu'il aimerait bien participer à la guerre, car ça va être un spectacle le plus extraordinaire, il pense, qu'il va se passer. Et il dit, faut pas que je rate ça, quoi. Donc il veut y aller. Alors il commence à faire ses classes, il est en caserne plus exactement pour l'instruction, et là alors il se dit, oh là là, mais je vais être inapte complètement à ce truc là, parce que ça demande de la passivité, de l'endurance, moi c'est pas ça du tout, ça demande aussi de l'obéissance et autres, et moi c'est pas du tout mon truc. Alors il craint un peu que ce soit pas absolument pour lui. Et puis ensuite il craint que la guerre soit trop courte, alors il se dit, elle va être trop courte, elle va se finir rapidement, parce qu'on dit que la guerre ça va durer très peu de temps, du moins cette première guerre, ça va durer très peu de temps, il se dit, ça y est, je vais pas pouvoir y aller, quoi, ça va être affreux. Alors ensuite, il part au front, 10 mois après, tous ceux de 1914. Et il dit, la population un peu blasée nous fêtait encore très honorablement parce que nous n'avions guère que 19 ans. C'est vous dire l'âge qu'il a. À son arrivée au front, alors il va commencer, il est au front, il creuse des sapes russes, c'est des espèces de tranchées qu'il creuse, etc., en vue de la prochaine offensive, désormais imminente, mais il est très déçu que sa fonction de combattant se borne à un rôle de terrassier, comme ça, travaillant sous le feu, exposé et passif. Et puis, vinrent à ce moment-là les premiers obus, les morts, les blessés, ces hommes étendus dans leur sang qui avaient pour appeler ces visages d'enfants battus et suppliants qu'on voit aux aides que le malheur vient de frapper. Vous voyez qu'en plus, le style est absolument formidable. La guerre cesse d'être un jeu, même pour lui. Il reste convaincu cependant que sa destinée ne peut avoir son terme sur un champ de bataille, donc il va s'en sortir, etc. Il est là. Et puis, ensuite, il trouve que la guerre est absolument absurde. Il trouve cette affaire très mal montée. Il dit, ça marche pas, là, c'est mal monté, ça va pas du tout. Donc il la boude. Il dit, je la boudais. Ma bouderie me rendait fort et me donnait une sorte de courage. Les choses s'aggravent. Il a maintenant des obus qui s'abattent pendant la nuit. Les soldats se jettent dans la nuit froide. Il faut courir de toutes ses forces. Les yeux dilatés, mais prêts à les fermer pour ne pas voir le feu. Nous franchîmes comme des tigres les trous d'obus fumants. Nous franchîmes les appels de nos frères. Ces appels sortis des entrailles et qui touchent aux entrailles, nous franchîmes la pitié, l'honneur, la honte, nous rejetâmes tout ce qui est sentiment, tout ce qui élève l'homme, prétendent les moralistes, ces imposteurs qui ne sont pas sous les bombardements et exaltent le courage. Nous fûmes lâches, le sachant, et ne pouvant être que cela. Le corps gouvernait, la peur commandait. Le grand mot est lâché, c'est la peur qui décompose mieux que la mort, qui vous vide, qui vous berce à la folie. Alors c'est un livre poignant, moi j'ai trouvé d'une force peu commune, et c'est un livre absolument, absolument essentiel.
La peur, édition Le Dilettante de Gabriel Chevallier. Vous écoutez CFM, Les Voix de l'Alma, et c'est Daniel Deloche qui nous présente un livre sur le Tarn-et-Garonne, fait par un Tarn-et-Garonnais, un livre de croquis, Daniel Deloche.
Alors après la merveilleuse présentation que Jacques nous a fait d'un ouvrage qui est quand même plein d'épouvante, je vais vous rassurer un petit peu en vous proposant Les églises et les chapelles de Tarn-et-Garonne à trait de plume, fait par François Condé et qui vient juste de paraître. François, pour ceux qui ne le connaissent pas, travaille au bâtiment de France et ça tombe bien parce qu'à la fois il a du talent pour le dessin et ô combien, et énormément d'intérêt, mais que dis-je, de la passion carrément pour le patrimoine architectural de notre région, et notamment pour les réalisations modestes et populaires telles que les moulins et les lavoirs. vous l'avez sans doute déjà eu l'occasion d'admirer ses dessins, dans le livre de Dominique Letellier sur les pigeonniers qui était sorti chez Privat. C'est lui qui avait fait tous ces croquis magnifiques. Et voilà que depuis quelques années, il s'est attaqué à un ouvrage sur toutes les églises et chapelles de notre département. Pour cela, durant ses loisirs, il a parcouru nos campagnes à leur rencontre et il a accumulé leurs portraits. Voici donc réunis plus de 500 édifices religieux, des grands et des modestes, des bien conservés et des en ruine.
C'est exhaustif ?
Je suppose. Il n'ose pas dire toutes les églises, du moins existantes encore, mais je pense que c'est en tout cas ce qu'il a tenté de faire.
Un vrai travail pour tout rechercher.
C'est un livre-jeu en plus, chacun va chercher celle qui n'y est pas, dedans.
Il y en a une par page, ou un par page suivant qu'on dit église, chapelle ou édifice religieux. Et chacun est juste assorti d'une courte légende. Ils sont classés par canton. Au début du livre, on trouve une carte du département avec le découpage cantonal. Et à la fin, un lexique sur deux pages imagé, montrant plutôt qu'expliquant ce que c'est qu'un modillon. Vous savez ce que c'est qu'un modillon ?
Non, le goupillon je vois, mais le modillon je ne vois pas.
Et est-ce que vous savez ce que c'est qu'un pot à feu ?
Pas un pot-au-feu.
Non, sur les églises, il n'y a pas de pot-au-feu. Ou une alors là, par contre, ça je sais, mais j'aime bien le mot, une abside en cul de four. Donc je vous conseille de vous reporter à l'ouvrage de François Condé qui vient juste d'arriver. En feuilletant l'ouvrage, on ressent beaucoup d'émotions. Celle, bien sûr, due à la beauté du trait de François, mais aussi parce que, pour beaucoup d'entre nous, cela évoque des événements familiaux, tel enterrement, tel baptême, tel mariage. Il cite aussi souvent les églises disparues. Et il espère, et nous espérons avec lui, que son ouvrage aidera à éveiller une conscience et la préservation de celles qui sont en train de tomber en ruine. Et comme vous en doutez, il y en a beaucoup.
Église et chapelle du Tarn-et-Garonne.
François Condé. Il est d'origine espagnole.
Andalouse,
pour être précis, comme dit Philippe. Et il dédie son livre à son grand-père, Manuel Pastor Regalón, dit Manolete al Molinero, qui m'a appris à observer et respecter le patrimoine pour mieux le préserver et transmettre le travail des hommes aux hommes.
Merci Daniel Deloche. Mots, animaux, Jacques Griffaut, un petit bouquin pour s'amuser un peu, c'est ça ?
C'est un petit bouquin pour s'amuser, c'est un petit bouquin cadeau aussi, c'est une idée de cadeau, je trouve assez formidable, parce que c'est un beau livre avec une couverture toilée cartonnée qui fait 208 pages, dans lequel vous avez... Alors, l'idée, c'est de trouver des citations d'auteurs, de Rabelais à Céline, de Ronsard au surréaliste. Il y a comme ça 1000 citations, 1000 petits textes, de près de 200 auteurs différents qui ont été classés par ordre chronologique et qui dressent le portrait de 99 animaux, de abeilles à zébus, à travers les âges. Et en plus de ça, il y a des lettrines. C'est-à-dire que quand vous voyez, par exemple, le E de l'éléphant, c'est un peu difficile de le voir à la radio, mais vous voyez que le E de l'éléphant, on l'a continué avec une trompe, etc. C'est assez bien fait. Donc ça fait un de ces petits livres que l'on consulte comme ça. Si on a peur d'offrir un roman parce qu'on ne sait pas très bien si la personne va aimer ou pas, on peut offrir ça et on est sûr qu'elle prendra plaisir. C'est un livre qu'on consulte, on a 5-10 minutes, on le lit, etc. Alors qu'est-ce qu'on va trouver ? C'est un livre séduisant parce que d'abord, on lit les textes avec intérêt. Je ne sais pas si vous saviez, Rémi, que l'éléphant s'agenouille pour s'accoupler, par exemple. Eh bien, vous trouvez ça, il y a Rémi de Gourmont, qui est dans La physique de l'amour, qui dit ça. Est-ce que vous savez que l'huître est mâle de septembre à mai, période où elle est bonne, puis femelle de juin à août, hein ? Est-ce que vous savez que chaque huître pond par an de 50 000 à 60 000 œufs ? Ça, c'est de cet extrait de Dictionnaire d'histoire naturelle de Jules Pizzetta. Et je ne sais pas si vous connaissez ce texte formidable d'Henri Michaud, qui est sur le poisson, qui est celui-là. Un poisson des grandes profondeurs, devenu fou, nage anxieusement vers les poissons de sa famille, à 600 mètres de fond, les heurte, les réveille, les aborde l'un après l'autre. Tu n'entends pas de l'eau qui coule, toi ? Voilà. Alors, vous admirerez donc un livre, vous admirerez aussi la créativité de Ike Ekar. Alors Ike Ekar, en fait, ils mettent Ike Ekar parce que c'est plus simple, parce qu'en fait c'est Elena Ishbia et et Piotr Karski, donc on met Ikekar, etc. C'est un atelier qui a donc fait ses lettrines. Et je trouve que c'est très réussi, bravo. Jean Réal est un documentariste, lui, il a fait beaucoup de choses pour la télévision. Il est installé dans le Tarn-et-Garonne depuis une dizaine d'années.
Voilà, ça s'appelle... Et on lui doit Bêtes et Juges.
Ah oui, d'autres livres aussi. Oui. De ses derniers, Bêtes et Juges, alors ça c'était un livre sur les procès d'animaux à travers les siècles, oui. C'est une histoire absolument étonnante.
Oui. Mots animaux, vous écoutez CFM, c'est Les Voix de l'Alma, l'émission des libraires montalbanais sur l'actualité. Des libraires montalbanais, on va y venir tout à l'heure. Mais d'abord, comme à chaque fois, il y a une lecture traditionnellement dans cette émission. Et c'est Philippe Bernadou qui nous livre aujourd'hui des bibliothèques pleines de fantômes.
Des bibliothèques pleines de fantômes, rendre tout à fait dans le thème qui a l'air de se dégager aujourd'hui sans que nous soyons concertés, c'est-à-dire c'est l'accumulation. Nous avions François Condé qui a accumulé les dessins d'église, nous avions Jean Réal qui a accumulé les citations, et là il s'agit des gens qui accumulent les livres. Alors je mets un peu en situation, il s'agit de l'auteur est chargé d'escorter, de s'occuper, de chaperonner un auteur italien. À Paris, qu'il ne connaît pas, donc ils commencent à parler ensemble de choses et d'autres. Au bout de quelques minutes de conversation, nous prîmes conscience d'un point commun qui transforma l'intérêt de la soirée. Nous possédions tous deux une bibliothèque monstrueuse de plusieurs dizaines de milliers d'ouvrages. Non pas une de ces bibliothèques de bibliophiles, aux ouvrages si précieux que leurs propriétaires ne les ouvrent jamais, de crainte de les abîmer, mais une bibliothèque de travail où l'on n'hésite pas à écrire dans les livres, à les lire dans son bain, et où l'on conserve tout ce que l'on a lu, livres de poche compris, et les multiples éditions éventuelles d'un même ouvrage, ou que l'on a l'intention de lire plus tard. Une bibliothèque non spécialisée, ou plutôt spécialisée dans tellement de domaines qu'elle en devient généraliste. Nous dissertâmes tout au long du repas sur le bonheur et la malédiction pesant sur notre sort. Les livres sont coûteux à l'achat, ne valent rien à la revente, sont hors de prix lorsqu'il faut les retrouver une fois épuisés, sont lourds à porter, prennent la poussière, craignent l'humidité et les souris, sont à partir d'une certaine quantité quasi impossible à déménager, nécessitent un classement précis pour pouvoir être utilisés et surtout dévorent l'espace. Il m'est arrivé d'avoir une salle de bain au mur tapissé de rayonnage, ce qui interdisait l'usage de la douche et obligeait à prendre son bain la fenêtre ouverte à cause de la condensation. Et aussi, dans ma cuisine, ce qui prohibait un certain nombre d'aliments à l'odeur particulièrement prégnante. Comme nombre de mes confrères, j'ai mis longtemps avant d'avoir les moyens immobiliers de mes ambitions bibliophages. Il n'y a que le mur de ma chambre surmontant mon lit qui ait toujours été épargné en raison d'un traumatisme ancien. La découverte, il y a bien longtemps, des circonstances de la mort du compositeur Charles-Valentin Alcan, surnommé le Berlioz du piano, retrouvé chez lui le 30 mars 1888, écrasé par sa bibliothèque. Chaque corporation ayant son saint martyr, Alcan l'aîné, ce pianiste virtuose admiré de Liszt et qui hérita des élèves de Chopin à sa mort, est assurément celui des fous de bibliothèque. L'auteur s'appelle Jacques Bonnet, je n'avais pas encore prononcé son nom. Et des bibliothèques pleines de fantômes est un jeu de mots, car le fantôme, en langage technique, Maurice le sait, de bibliothécaire et documentaliste, c'est la feuille ou le bout de carton qu'on met pour repérer l'endroit où on a enlevé un livre. C'est le nom que ça, c'est un fantôme. Et c'est aussi, bien sûr, le fantôme des auteurs et des héros de livres.
Des absences bien présentes.
Merci, Philippe Bernadou. Alors, c'est une semaine riche d'actualité, Maurice Beau, avec des ateliers qui vont se dérouler vendredi, je crois.
Alors, vendredi...
Autour des jurons et des insultes.
Voilà, là, je me fais le porte-parole de la librairie Siloé, qui propose cette année, dans le cadre de Lettres d'automne, un atelier d'écriture qui sera animé par Evelyne Folle, cette magnifique, infatigable pédagogue militante du verbe partager. Un atelier d'écriture, donc vendredi de 14h à 16h, la ronde des jurons et la guirlande des mots doux. Voilà. Donc vous pouvez directement prendre contact avec la librairie Siloé pour vous inscrire à ce moment intéressant.
Retranscription des ateliers dimanche, c'est ça ?
Alors là, justement, je vais passer la parole à Daniel, puisque oui, en effet, nous sommes en pleine actualité de Lettres d'automne et dimanche.
Et dimanche, tous les libraires ou presque seront réunis sur la place nationale pour le premier livre en place dans le cadre de Lettres d'automne. Donc, ceux qui n'auront pas participé aux ateliers pourront venir déguster tous ces beaux jurons le dimanche matin sur la place nationale. Livre en place débute à 10h sur la place nationale. D'abord, nous avons à 9h, même à 9h30, donc c'est pour les plus courageux, hein, vous avez au bateau livre un petit déjeuner avec des auteurs comme Nathalie Novi et Olivier Talec, et puis également, n'est-ce pas, du thé, du chocolat. Vous pouvez amener vos croissants et vos gâteaux, et bien sûr vos enfants.
Un petit déjeuner espagnol, on mange ce qu'on amène. Hein.
Voilà. Puis, et je vous conseille de vous rendre à la librairie Beau Livre, et je repasse la parole à Maurice.
Eh bien, tout d'abord, ce qui n'est pas sur le programme, et nous l'avions annoncé à la dernière émission, il y aura des surprises. Des surprises qui ne sont pas forcément sur le programme, et entre autres, vous aurez un atelier qui s'appelle « Mon livre et moi », et moi en un seul mot. Eh bien, tout simplement, trois photographes vont venir de l'association Photographie Création Communication, vont venir installer un studio de portraitistes forains sur la place, et ils vous proposent de venir poser devant l'objectif et pour la postérité avec votre livre de cœur, votre livre du moment, votre livre et moi. Voilà. Et bien sûr, on peut faire aussi des... Vous aurez la possibilité, ça peut être la photo du couple aussi, parce que madame peut avoir une lecture à ce moment-là et monsieur une autre. Pourquoi pas la photo de famille. Et ces trois photographes le feront. Alors, ils seront quatre mousquetaires. Comme les trois mousquetaires, ils seront quatre, puisque Nicolas Viol, très aimablement, de Fox Photo, mettra à disposition aussi sa logistique et sa technique pour que les gens puissent repartir avec leurs images. Voilà. Donc, là aussi, ça commencera à 10h. Nous vous proposons ceci. Bien entendu, dans le cadre des portraitistes aussi, je ne vais pas oublier, vous avez Rosendoli, notre peintre Rosendoli, cet artiste, pédagogue lui aussi, qui invite toutes les personnes qui ont envie de dessiner à venir croquer figures et visages de lettres d'automne, c'est-à-dire des personnes qui seront présentes bien sûr sur la place à ce moment-là et qui participent aux lettres d'automne, c'est-à-dire aux invités mais aussi au public de lettres d'automne, et donc chacun pourra repartir éventuellement avec son portrait croqué par ou Rosendo ou d'autres artistes. Voilà.
Eh bien, les librairies de Loche et le Scribe seront réunies pour vous présenter pour accueillir les auteurs qui seront présents sur le festival Lettres d'automne et seront encore à Montauban. Et bien sûr, notamment Lydie Salver, Philippe Adam et d'autres que je vous laisse le plaisir de découvrir. Et nous aurons également le grand plaisir d'héberger quelques-uns des chefs du Tarn-et-Garonne qui viennent de publier un ouvrage que je crois vous avoir déjà présenté qui s'appelle Confidence de chef et qui du coup en feront une démonstration fort appétissante en vous proposant des petites choses à manger et à boire et des tours de main puisqu'ils auront la gentillesse de nous confier leurs secrets carrément en réalisant ça devant nous.
Tout ça et beaucoup d'autres choses, donc c'est dimanche pour Livre en Place, ce sera Place Nationale.
Et ce n'est pas encore fini.
Rapidement, oui, parce qu'on arrive au bout.
Très rapidement, eh bien, je parle là pour le comptoir de Sildavi, notre ami Hugues Dedi, a actuellement une exposition autour de Le Roman de Renard, qui a été mis en image par Bruno Heitz, un auteur proche de Lily Salver, qui propose actuellement une adaptation en bande dessinée du roman de Renard, qui est paru chez Gallimard. Or, déjà entre le XIIe et le XIVe siècle, les copistes médiévaux créaient les enluminures inspirées par les aventures satiriques de Maître Goupil. Voilà, donc Hugues, actuellement devant sa librairie, propose une expo dialogue graphique avec une réponse qui est à une longueur de 800 ans. Et par contre, dimanche, Bruno Heitz sera présent sur le livre en place, hein, Place Nationale, et montrera, dévoilera aussi les croquis qu'il aura fait pendant les 15 jours de son séjour à Montauban.
On reste sur l'idée de l'expo pour finir.
Oui, si vous n'avez pas pu venir au Scribe vendredi soir, il y avait Sylvain Mesquia qui présentait dans le cadre de Lettres d'automne, avec en présence de Lydie Salvert, tout son travail essentiellement sur des céramiques. Cette exposition, c'est céramique, et aussi la calligraphie qu'il fait sur la céramique, c'est l'écriture et le travail qui intéressait Lydie Salvert. Donc il a présenté tout cela, mais lui n'est plus là maintenant, mais ses œuvres sont encore là et vous pouvez venir les admirer au Scribe jusqu'à samedi soir.
Allez, je vous demande un tour de table de tous les ouvrages que vous avez présentés dans cette émission. Philippe Bernadou, on commence par vous.
Alberto Manguel, nous avons parlé de l'Iliade et l'Odyssée, publié chez Bayard, et de La fiancée de Frankenstein, qui est publié aux éditions L'Escampette. Ensuite, j'ai lu de Jacques Bonnet, Des bibliothèques pleines de fantômes, aux éditions de Noël, qui peut donc faire aussi un bon cadeau. De Noël.
Daniel Deloche.
Eh bien, moi, je vous ai présenté Les églises et les chapelles de Tarn-et-Garonne à trait de plume de François Condé.
Jacques. La peur de Gabriel Chevalier au dilettante, ce grand roman sur la, ce grand livre sur la guerre de 14-18, et Mots animaux de Jean Réal chez Buchet-Chastel, un livre cadeau.
Et moi, je ne vous ai rien présenté, mais je vous invite à venir avec votre livre préféré, votre livre et moi. Dimanche matin, à Livre en Place, Place Nationale, pour avec votre sourire aussi, puisque vous poserez pour la photo.
Messieurs, dames, merci. C'était Les Voix de l'Alma, édition de décembre 2008. À l'année prochaine.
À l'année prochaine.
Bonne fin d'année.
Oui.